là, c'était pour signifier un peu le but de cette réflexion, qui est un peu plus spirituelle. Maintenant, on va revenir à la présentation générale de l'encyclique. Alors, cette encyclique, elle a été écrite en 1993. Et elle se veut à la fois une méditation, une admonestation, c'est-à-dire une reprise en main, et une exhortation. Alors, cette encyclique a été écrite dans un constat de double crise. De double crise. Celui d'une rupture entre la liberté et la vérité. Ça, cette rupture, on peut la voir de nos yeux directement. Ainsi qu'une rupture entre la foi et la morale. Voilà. Et donc l'encyclique se veut une relecture de tous les grands courants de pensée qui traversent la planète et qui favorisent cette dissociation entre foi et morale, entre liberté et vérité. Alors, c'est d'abord une méditation. C'est la méditation du jeune homme riche, Matthieu 19, 16, 21. Et cette méditation, donc c'est une méditation sur la parole du jeune homme riche, et cette méditation veut établir un lien entre le bien moral et l'accomplissement de la vie. Entre guillemets, c'est mon slogan, faire le bien fait du bien. Réétablir un lien entre le bien moral et l'accomplissement de la vie, voilà, sous le regard de Dieu, bien sûr. Alors je vais vous lire un passage de l'évangile et on va de l'évangile, de l'encyclique, et on va en faire ressortir le suc. Et voici qu'un homme s'approcha de lui. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Dans le jeune homme que l'évangile de Matthieu ne nomme pas, nous pouvons reconnaître tout homme, chacun d'entre vous, qui consciemment ou non s'approche du Christ, rédempteur de l'homme, et lui pose la question morale. Pour le jeune, avant d'être une question sur les règles à observer, c'est une question de plénitude de sens pour sa vie. C'est là en effet l'aspiration qui est à la source de toute décision, de toute action humaine, la recherche secrète et l'élan intime qui meuvent la liberté. Elle est l'écho de la vocation qui vient de Dieu, origine et fin de la vie humaine. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? C'est donc avant tout une question de plénitude. Je fais le bien, je recherche le bien pour entrer dans cette plénitude de sens. Je veux être libre pour être vraiment libre. Donc le sens de la liberté, c'est le sens de la plénitude du sens de la liberté. C'est donc la vraie liberté. Et donc à travers ce passage de l'Écriture est remis ensemble le sens de cette articulation entre vérité et liberté. Et cela n'est possible qu'en s'approchant du Christ, qui lui répondra à notre question. Donc ça, c'est la méditation, qui est en fait la recherche d'une plénitude de sens. Deuxièmement, c'est une admonestation. Admonestation, une reprise en main. C'est un passage difficile, c'est difficile. Hein? C'est le passage le plus technique de l'encyclique. Et il propose son discernement pour voir comment, rationnellement, définir ce lien entre la liberté et la vérité. Et la réflexion se fait autour de plusieurs thèmes principaux. Comment mettre ensemble la liberté, la loi, la conscience, la vérité dans les choix concrets. Voilà. Et donc demain, je vous donnerai un texte pour vous faire réfléchir sur ce rapport-là. En fait, et enfin la troisième partie, c'est une exhortation. Comme je vous l'ai donné dans le texte, la troisième partie commence au numéro 84, et là on est au numéro 87, donc ça résume bien le sens de la troisième partie, qui est de faire apparaître que toute la splendeur de la vérité se trouve en Jésus-Christ lui-même. Et que le but de la découverte de la vraie liberté, c'est de suivre le Christ, pas à pas. Non pas simplement l'imiter, mais se configurer à sa personne, être en lui. Vous voyez ? Quand le prêtre dit « par lui, avec lui et en lui », en fait c'est vos personnes qui s'incorporent à l'Eucharistie. C'est un petit peu, ça fait disjoncter un peu la tête, mais vous voyez, on devient nous-mêmes par lui, avec lui et en lui. À toi Dieu le Père. Le but de la vie chrétienne, c'est pas le Christ, hein, c'est le Père. Dans l'unité du Saint-Esprit, dans le climat de la communion d'amour. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon éternité de vie, ce sera ça. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Là, vous avez tout le sens de la vie chrétienne et l'accomplissement de sa liberté qui doit devenir une liberté eucharistique. C'est pourquoi la nourriture eucharistique est comme le sacrement le plus direct pour devenir vraiment libre. Voilà. Alors, quels sont les destinataires de l'encyclique ? Entre guillemets, quels sont les méchants ? Entre guillemets, sur qui l'encyclique veut taper ? Veut corriger ? Voilà. On pourrait dire qu'il y a trois grands mouvements. Trois grands mouvements. Ça, c'est intéressant parce que souvent, il nous concerne aussi un peu tous. Parce qu'il flotte dans l'air, dans la culture postmoderne actuelle. La culture postmoderne actuelle, vous la définiriez comment, la culture postmoderne actuelle ? On n'est plus dans la modernité, on est dans la postmodernité. La postmodernité, en gros, c'est deux critères. Et si, hein ? Oui. Alors, c'est une réduction de la vérité à l'émotion individuelle. Est vrai ce que je ressens profondément ? Ouais. Non. Hein ? Et c'est la recherche d'une affirmation exaltée de soi de manière libre. Voilà. On pourrait dire c'est ça. Réduction de la vérité à la subjectivité émotionnelle et une recherche permanente d'affirmation de soi par des actes libres. Et le lieu emblématique d'application de ça, c'est le gender. Vous allez voir la fois prochaine. Mais c'est la valeur sexuelle, c'est la libération sexuelle. Et en fait, le film emblématique le plus récent, c'est Sex Friend. Voilà. C'est, en fin de compte, on fait ce qu'on veut de son corps. Et derrière ça, il y a tout un lobbying, hein, j'espère qu'on vous en parlera, il y a tout un lobbying international qui veut créer une nouvelle culture des droits de l'homme, qui réinterprète les droits de l'homme de cette manière-là. Non plus sur un fondement de loi naturelle, mais sur un fondement d'exaltation de la liberté de la possession de son corps. Et de manière sous-jacente, le féminisme radical d'une liberté sexuelle exacerbée. Voilà. Avec contraception absolue, avortement absolu. Voilà. Donc, quels vont être les grands courants de pensée qui vont, d'une certaine manière, traduire ça ? Il y a trois grands courants de pensée. Ouais. Le relativisme, il va s'intégrer là-dedans. Hein. Tac, voilà. Donc c'est tout d'abord ce qu'on appelle le proportionnalisme. Le proportionnalisme. Ou dit conséquentialisme. Je vous ai déjà donné un exemple. C'est j'évalue le bien en fonction des conséquences que je perçois, positives ou négatives, de l'acte que je vais poser. Je vous l'ai dit, 9e couche, 45 ans, couple en difficulté, problème financier, arrive un tout petit dernier, qu'est-ce que je fais ? Hein, avoir un bébé à 45 ans, c'est très fatigant pour une femme. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais ? Quelles vont être les conséquences globales ? Est-ce que je détermine le bien que je vais faire, ma décision en fonction, globalement, il vaut mieux qu'on ne l'ait pas ce petit, donc on va l'éliminer. Ou est-ce que j'accepte profondément, en fonction de la nature même de l'existence de ce bébé, que voilà, c'est un don de Dieu, c'est un petit Jésus inattendu. Hein? Voilà, donc la conséquence, voilà. Est-ce que je proportionne le bien en fonction des effets, ou est-ce que je regarde le bien en lui-même? C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé du jugement moral, où j'ai rappelé que la centralité de l'objet de l'acte régule le jugement. La nature de l'acte. Tuer, c'est toujours mauvais. Tuer, c'est toujours mauvais. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui a avorté. Hein? Peut-être ça vous... Ben, c'est quand même des choses qui arrivent dans vos entourages. Hein? Ça arrive assez jeune. Ben, si un jour vous êtes vraiment en confiance, la personne est vraiment en confiance avec vous, ben, ça en finira toujours à la même situation, un poids de mort. Un poids de mort. Voilà. Et ce n'est pas la pilule du lendemain où, voilà, maintenant, les avortements que l'on fait chez soi tout seul, jusqu'à quoi, 5 semaines, c'est ça, hein, qui vont arranger les choses. Écoutez quelqu'un qui avorte tout seul, chez soi, dans les toilettes, jusqu'à 5 semaines. Mais c'est comme ça, hein, la pilule. Hein? La pilule du lendemain, voilà. Vous pouvez auto-avorter jusqu'à 5 semaines, comme ça. Ben, écoutez les témoignages. C'est l'horreur. L'horreur. C'est l'horreur. Donc, c'est toujours vécu douloureusement. Voilà. Entre guillemets, c'est jamais bénin. Bénin. Ça rejoint profondément notre être appelé à la vie, à donner la vie. Voilà. Bon, il n'y a pas, bien sûr, que ces aspects ultimes, là. Hein. Il y a, voilà. Celui qui va voler, comment s'appelle, Madoff, c'est ça? Madoff, il a piqué combien? 60 milliards de dollars à des fonds spéculatifs qu'il a mis dans sa poche et qu'il est, bon, il a menti sur les bilans. Comptable, etc. Un voleur. 60 milliards, ça représente combien de couples fragilisés? Combien de familles qui ont été volées? Bon, là, c'était peut-être les riches. Bon, donc, ils n'ont peut-être pas beaucoup souffert. Mais voyez, un autre mensonge. Le cœur de la crise économique, c'est parti d'où? C'est parti de l'immobilier américain. Les subprimes. Donc, la question, je prête de l'argent contre le fait d'hypothéquer la maison qui va essayer de payer l'argent. Est-ce qu'il était moral de prêter de l'argent à des gens dont on savait sûr qu'ils ne seraient pas capables de rembourser? Et donc, d'une certaine manière, on savait qu'ils ne seraient pas capables de rembourser. Pourquoi? Parce que les banques, après, ont spéculé financièrement sur ce qu'on appelle les subprimes, sur cette manière de prêter de l'argent. Voilà. Et donc, il y a une recherche de spéculation sur des prêts dont on savait qu'ils ne pourraient pas être remboursés. Donc, on cherchait l'argent. Le but, ce n'était pas de donner l'accès à la propriété à des gens, que de spéculer sur de l'argent qui pourrait nous rapporter beaucoup plus que la perte éventuelle du non-remboursement du prêt. Etc., etc. Donc, je cherche les effets, je prends ma décision en fonction des effets. Est-ce que vous auriez, vous, un exemple à donner ? 80% des étudiants font du copier-coller dans les facultés. 80% des étudiants. Bien sûr, pour avoir leur examen. Là, on vient de voir qu'un des grands ténors du barreau de Paris avait fait sa thèse en un copier-coller. Est-ce que vous faites à Philanthropos des copier-coller ? Je ne demande pas de réponse. Hein. Vous voyez, cette tentation, il faut savoir faire ses examens rapidement, etc. Ne vous en faites pas, un prof sait très bien quand c'est copier-coller. Il le sait parfaitement. Alors parfois, il ne réagit pas directement parce que... Mais il le sait. C'est très simple. Hein. D'ailleurs, par Internet, il y a une technique imparable. Je ne vous la dis pas. Voilà. En tout cas, mais entre les ruptures de style, entre les manières dont sont construits les paragraphes, entre les références citées, etc., il y a trop de ruptures. Sauf quand c'est on copie tout. Alors là. Mais quand on connaît la personne et qu'on voit ce qu'elle a fait, on peut quand même voir tout de suite si ça colle ou ça colle pas. Vous avez des professeurs qui connaissent bien les étudiants. Ils voient tout de suite. Ne en faites pas, ça concerne aussi parfois des séminaristes. Des séminaristes. Hein ? Des séminaristes. Donc, voilà. Donc, voilà. Est-ce que je copie-colis pour avoir, en fonction de l'emploi du temps, pour organiser mon temps, etc. Voilà. Conséquentialisme. Ensuite, l'option fondamentale.